France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Le Grand Face-à-Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et notamment cette semaine sur le grand discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. C'était jeudi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. La Sorbonne, où en 1892, le baron Pierre de Coubertin présente l'idée de ressusciter les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 90 jours, et les références à l'Antiquité sont tellement nombreuses et parfois farfelues que nous avons eu envie d'inviter un historien de la Grèce antique, Jean-Manuel Roubineau, maître de conférence en histoire ancienne à l'université Rennes 2. Il signe Le Sport, récit des premiers temps aux presses universitaires de France. La figure de l'athlète, de l'entraîneur, du spectateur se forge à ce moment-là, il y a plus de 2500 ans. Que raconte-t-elle de la société, de la culture d'alors? Et quelles sont les legs pour notre temps présent? On posera la question à notre invité tout à l'heure pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Bravo Gilles pour votre victoire dans le tournoi de tennis de Deaumont. On est très fiers d'avoir un lauréat avec nous. Natacha, je commence avec vous. Vous n'avez pas gagné le tournoi de tennis cette semaine?
Non. Aucun.
Allez, les propos alarmistes d'Emmanuel Macron, jeudi midi à la Sorbonne, sont-ils faits pour nous réveiller? La peur de la disparition a-t-elle réveillé en vous, Natacha, la flamme européenne? Comment est-ce que vous avez entendu ces mots « l'Europe peut mourir » ?
Alors, je pense que le passage qui vient d'être cité est sans doute la partie la moins intéressante du discours, parce que c'est celle qui est la plus politicienne, en fait.
Ah, c'est politicien, ça ?
On entend bien, c'est maintenant que ça se décide, sous-entendu, il y a des élections, réveillez-vous. Or, le reste du discours est très intéressant. Et il est très intéressant parce que, sans être trop taquine, je dirais que Emmanuel Macron comprend des choses. Et que ce qui est toujours très intéressant, c'est sa façon d'annoncer des très grandes ambitions qui arrivent 5 ou 10 ans en retard, mais c'est mieux que rien. Et il faut toujours saluer ceux qui font leur chemin de Damas. Je pense que l'Europe, on le dit souvent, avance par les crises, mais contrairement à ce qu'on laisse entendre trop souvent, ce n'est pas parce que les fervents défenseurs de l'Union européenne telle qu'elle est iraient dans la bonne direction, mais justement parce que face à l'évidence des ratés et des échecs, il y a une obligation de se réformer. Et c'est ce qu'on a vu sur les dernières années, où évidemment la dépendance sur les médicaments, la dépendance sur l'énergie, tout à coup, ont permis des avancées qui sont des avancées substantielles, ne serait-ce que tout simplement le fait qu'on peut enfin parler de cette question de la production en Europe. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il nous présente une Europe, bon, qui, nous répète-t-il, doit être souveraine. C'est en permanence ce terme de souveraineté. Et même, il rentre dans les détails des conditions de l'indépendance. On ne peut que s'en réjouir. Il évoque enfin ce que certains expliquent depuis 20 ans, à savoir que la BCE ne devrait pas être tournée uniquement vers la lutte contre l'inflation et qu'il faudrait retrouver une politique monétaire. Merci, enfin. De même, sur le volet défense, il s'aperçoit que la Facilité européenne pour la paix a bénéficié pour les 3/4 des financements à des pays hors Union européenne, en particulier les États-Unis. Merci de s'en apercevoir. Il faut un Buy European Act.
Les États-Unis très ciblés d'ailleurs par le président de la République.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est pas bien sûr.
Non, mais justement, ouais. tant mieux. De même, il évoque le fait de revenir au principe de proportionnalité et de subsidiarité, c'est-à-dire l'articulation entre finalement le rôle des États et le rôle de l'Union européenne. Merci de s'en soucier. Là aussi, ça fait 20 ans que certains disent qu'il y a une question de définition exacte des structures de l'Union européenne et des traités. Il explique qu'il faut, par exemple, faire en sorte de revivifier le marché intérieur. Oui, un marché commun plutôt qu'un marché unique ouvert à tous les vents. Merci. Vous voyez, on peut comme ça décliner. Alors, il y a quelques petits détails qui, quand même, laissent à désirer, puisqu'il explique que sur les traités de libre-échange, les clauses miroirs, c'est formidable. En effet, on est bien d'accord qu'il faut arrêter d'importer des produits dont la fabrication est interdite en Europe. Mais il nous cite la Nouvelle-Zélande et le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et une phrase après, il explique qu'il faudrait indiquer sur les produits le bilan carbone de ces produits. J'espère qu'on va indiquer le bilan carbone des agneaux importés de Nouvelle-Zélande grâce au traité de libre-échange. Ce serait intéressant. Donc, il y a quand même quelques failles. C'est-à-dire qu'il passe comme l'eau sur les plumes du canard sur la question de réellement la structure de l'Union, puisqu'il se garde bien d'évoquer le passage à la majorité qualifiée, il se garde bien de clarifier en fait ses positions sur la question d'un éventuel fédéralisme, d'une articulation réelle entre les États et l'Union. Mais malgré tout, on peut considérer que les gens qui critiquent l'Union européenne telle qu'elle est, et non pas l'idée d'Europe, ben, sont peut-être utiles, puisque Emmanuel Macron les a enfin écoutés.
Gilles, au nom de la Fondation Jean Jaurès, vous avez fait partie d'un ensemble de personnes qui ont parlé au président de la République avant son discours. Est-ce que pour vous, ce discours que Natacha vient d'analyser, c'est une forme de déclaration d'indépendance de l'Europe ?
Oui. Vous l'avez dit, le président de la République a réuni mardi une quinzaine de fondations, de laboratoires d'idées, spécialistes soit de questions européennes, soit de géopolitique, des Français, des Européens, et avec lesquels il a échangé pendant 2h30, pendant lesquels il a beaucoup écouté et peu parlé, ce qui n'est pas toujours le cas. Et un des éléments, moi, qui me frappait, puisqu'il a choisi de faire un discours sur le même sujet au même endroit, la Sorbonne 1... Oui. En 2017, la Sorbonne 2 en 2024, c'était de voir à quel point les conditions de réception de ces discours étaient différentes. La Sorbonne 1, on était au lendemain d'une présidentielle, d'une première présidentielle victorieuse. C'était le moment des commencements où tout est possible. La Sorbonne 2, on est juste avant des européennes difficiles et c'est le moment où on est confronté au réel. Et donc, je lui avais dit que, ce faisant, la Sorbonne 1, on était en train d'analyser sa pensée, le risque que pour la Sorbonne 2, c'est qu'on soit en train de débusquer ses arrière-pensées. Et donc, on va prendre les deux. Moi, je vais commencer, et c'est très important de le faire sur la pensée d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le discours en dehors de toute autre considération politique, même si il faut aussi regarder...
Il y a un contexte dans 6 semaines, élections européennes.
Sur le discours lui-même, au-delà de sa longueur, de sa technicité, on avait un peu le sentiment d'avoir une déclaration de politique générale d'un Premier ministre, le même sentiment où on parle de tous les sujets et pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière chaque sujet, il faut être un spécialiste de chaque sujet. Donc, au-delà de ce sentiment d'une déclaration de politique générale au niveau européen, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un discours très français, et je dis ça plutôt positivement, c'est-à-dire que c'est une vision française du monde, de la société, de l'économie. C'est une méthode française dans laquelle, par le verbe, par la projection, on fait bouger les choses. Nos amis européens ne pensent pas tous de la même manière. Et c'est un discours français qui bouscule les Européens et qui bouscule l'Union européenne telle qu'elle est. Et c'est vrai sur beaucoup de sujets, mais c'est vrai notamment, et je crois que Natacha a eu raison de le relever, sur les dimensions économiques, sur la concurrence, sur le commerce, sur le budget, sur la politique monétaire, où il y a des changements très importants. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est 5 ans ou 10 ans en retard. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il est, le risque, c'est qu'il soit 5 ans ou 10 ans en avance par rapport aux autres Européens. Et évidemment, on peut avoir envie d'ajouter, de retrancher, de clarifier un certain nombre de choses qui sont dans ce discours. Il a beaucoup occulté la dimension sociale des textes qui ont été votés ces derniers temps et auxquels la France n'a pas participé. Alors, on l'avait évoqué sur la plateforme, sur les travailleurs détachés, par exemple, ou sur le devoir de vigilance. Il parle pas du tout de la politique de cohésion entre les pays européens, entre les régions les plus riches et les régions les plus faibles, alors qu'il y a un élargissement qui est devant nous. Donc, il y a des impasses. D'une certaine manière, on demande beaucoup à l'Europe dans ce discours, il y a une grosse carrosserie sans modifier le moteur. Donc ces grosses carrosseries, petits moteurs, c'est ce que disait Natacha sur la démocratie et sur la manière de fonctionner de l'Union. Mais je trouve que c'est un bon discours. Et si vous aviez une baguette magique, Thomas, si vous pouviez nous dire, vous avez le choix, dans 5 ans, l'Europe est telle que Emmanuel Macron l'a dessinée, ou vous prenez le risque qu'elle soit un peu mieux ou un peu moins bien, sans hésiter, je choisis l'Europe telle qu'elle a été dessinée hier. Et disant cela, je dis aussi que on voit les difficultés qu'elle va avoir à s'appliquer parce que elle bouscule les Européens.
Et l'une des difficultés, c'est pas précisément, vous dites c'est formidable, c'est un discours très français. Est-ce que le problème, c'est pas que ce soit un discours français, pour le coup? Encore une fois, la France se présente en leader de l'Europe, qui embarque tout le monde avec un discours prononcé à Paris, au moment où les eurodéputés votent des textes importants pour la suite de l'Europe, au même moment. Est-ce que ça aurait pu être à Bruxelles, ce discours, par exemple, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement?
Alors, je suis pas sûr que la question du lieu soit déterminante. Je pense que le sujet principal, c'est que la vision française, et c'est vrai sur les questions économiques, mais c'est vrai aussi sur les questions de défense, par exemple, peut ne pas être celle de nos partenaires. Donc, je pense que la question n'est pas celle du lieu. Mais pour préparer la réunion de mardi, j'avais relu le discours de la Sorbonne 1. On aurait pu sans doute avoir la même discussion en 2017 quand Emmanuel Macron a prononcé le discours de la Sorbonne parce qu'il était décalé par rapport aux Européens. Or, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels, un peu porté par les circonstances aussi, mais sur lesquels l'Europe a bougé. Donc, écoutez, soyons espérons.
Soyons espérons. Natacha.
Disons que ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait sur l'Union européenne ce qu'il a fait sur le nucléaire, c'est-à-dire après avoir mis fin au programme Astrid, il relance le nucléaire. Donc là, on a à peu près le même phénomène, c'est-à-dire qu'en effet, il était grand temps, c'est ce que je disais. En revanche, ce qui manque dans ce discours, et c'est pourtant important, on l'a souligné, c'est la question des structures, parce que tout ce qui est annoncé là, pourrait rester totalement lettre morte si la position française n'est pas soutenue d'abord par un travail permanent, une lutte pied à pied pour défendre justement cette vision-là des intérêts des citoyens européens, mais aussi parce que ça doit se faire. On sent bien dans le discours qu'il a évité ce qui faisait problème, et j'y reviens, ce qui fait problème, c'est l'élargissement et ce que ça implique en termes de passage à la majorité qualifiée. Nous avons publié dans Marianne la semaine dernière un entretien avec François Bayrou, qui disait que lui-même, et pourtant on ne peut pas l'accuser d'être eurosceptique, qui disait que lui-même était très 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 méfiant vis-à-vis de ce passage à la majorité qualifiée, parce que si la France ne définit pas ses intérêts vitaux pour interdire que sur ces sujets-là il y ait majorité qualifiée, alors tout ce bel ensemble sera totalement inutile, voire contre-productif.
Avec le risque d'un blocage général, si à chaque fois qu'un pays considère que son intérêt national est mis en cause, on passe à l'unanimité, c'est ce qui s'était passé en 1966 pendant une vingtaine d'années.
Si on ouvre toutes les frontières et qu'on détruit l'économie européenne, mais il faut peut-être pouvoir agir.
Gilles, un mot là-dessus.
Alors, une phrase sur la majorité qualifiée. Moi, pendant longtemps, j'ai plaidé pour qu'il y ait beaucoup plus de textes, de domaines qui soient à la majorité qualifiée. Je continue de le faire, mais en réalité, même dans les domaines dans lesquels il y a majorité qualifiée, la pratique européenne, c'est qu'on recherche quand même le consensus.
Et donc, oui, elle est très. Non, mais surtout, faut expliquer que la majorité qualifiée est très difficile à obtenir. C'est presque une unanimité de fait. Quand vous devez avoir 2/3 des pays qui représentent un nombre important de la population européenne, en fait, on met ensemble des critères qui font qu'à la fin, ça ressemble à l'unanimité quand même.
Ah, ça pourrait permettre quand même d'éviter le blocage de quelques-uns. Mais même quand il y a le blocage de quelques-uns, on cherche à avoir l'assentiment de quelques-uns. Sur l'autre dimension, puisque je disais analyser la pensée, débusquer les arrière-pensées, malgré tout, il faut dire que ce discours ne se fait pas à n'importe quel moment. On est à un mois de l'élection du Parlement européen. Le discours, de manière directe, et n'est pas un discours politique. Peut-être qu'il y aura d'autres actes plus politiques, plus directement politiques dans les semaines qui suivent. Mais je crois quand même, Emmanuel Macron est parti d'un constat, c'est que la liste Renaissance qu'il soutient pour l'instant implicitement est à un niveau qui est bas, avec des écarts par rapport au Rassemblement National qui sont importants, et avec des écarts avec Raphaël Glucksmann qui se réduisent, que la dynamique est mauvaise, et je pense que sa stratégie a été de mobiliser son électorat en la phrase de Paul Valéry, de ce oui. point de vue-là, est très illustrative, en dramatisant les enjeux et en redonnant une fierté et une perspective aux pro-européens. Le risque, c'est, je disais, ineffectivité politique en Europe parce que les autres Européens sont bousculés. Le risque, c'est inutilité électorale en France, mais ça, on va le voir.
Le grand face-à-face, le duel.
Depuis près de deux ans, nos adversaires ont utilisé tous les recours possibles pour bloquer les vols et laisser venir les bateaux. Mais trop, c'est trop. Plus de tergiversations ni de retard. Ces avions vont au Rwanda.
C'était lundi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, lors d'une conférence à Downing Street. Lundi, juste avant les ultimes débats parlementaires, qui ont donc approuvé mardi le projet de loi Safety of Rwanda, selon lequel le Rwanda est un pays sûr au regard de l'asile et permet ainsi la mise en œuvre longtemps retardée. De l'accord de sous-traitance de demandeurs d'asile signé entre Londres et Kigali en avril 2022. Natacha, ça fait beaucoup réagir en Angleterre comme ici. Est-ce que c'est scandaleux ce que les Anglais viennent de voter ?
Il faut bien analyser exactement de quoi il est question. C'est-à-dire qu'il est question d'envoyer au Rwanda les étrangers arrivés illégalement ou par des moyens dangereux pour eux-mêmes, mais arriver de pays considérés comme sûrs, c'est ça que dit le texte, et de les envoyer donc au Rwanda, et là-bas, s'ils obtiennent l'asile, ils peuvent rester au Rwanda. C'est bien de cela dont il est question. Alors évidemment, c'est une manière de décourager l'immigration illégale en précisant que quand on arrive illégalement, on n'obtiendra rien. Sauf que, en effet, D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a évoqué dans son discours sur l'Union européenne, c'est une façon de faire qui crée une nouvelle dépendance. C'est-à-dire qu'on confie à un pays tiers, qui est très heureux de justement prendre la main sur ce sujet-là, on confie à un pays tiers la gestion de la question migratoire. Cela pose non seulement un problème moral, mais un problème politique. Alors, évidemment, les traversées, elles ont été de 45 000 personnes en 2022, alors un peu moins en 2023, hein, 30 000 personnes, enfin, ce qu'on évalue des traversées de la Manche. Mais on a plus 20% au début de 2024. Donc, on comprend bien que le gouvernement britannique cherche à régler cette question-là, que personne n'arrive à résoudre, mais je précise une chose. En Europe, au contraire, et là, on peut se dire que l'Union européenne, une fois de plus, a fait une avancée sur un sujet qui, jusqu'à présent, faisait l'objet d'un déni absolu avec le pacte migratoire européen, qui est intéressant, il faut bien le dire, et qui peut éventuellement permettre de répondre à certains problèmes, puisque les demandes d'asile se feront dans des centres extérieurs avec prise d'empreintes, etc., ce qui permettra un suivi véritable des demandeurs d'asile. Donc, il y a des politiques possibles autres que celles qui est proposée par les Britanniques.
Gilles, question morale, question politique, que de renvoyer des migrants clandestins au Rwanda, votre regard sur ce sujet ?
Oui, vous demandiez est-ce que c'est scandaleux ? Oui. Là, en l'occurrence, je pense que oui. On pourrait dire que c'est une anecdote, parce que longue gestation, courte durée de vie. Longue gestation, trois premiers ministres, quatre ministres de l'Intérieur, ça a duré deux ans, le projet a d'abord été bloqué par la Cour européenne des droits de l'homme, puis par la Cour suprême britannique, là il y a eu une longue guérilla parlementaire, il accouche, mais courte durée de vie, parce que dans quelques mois, il y a des élections, les conservateurs ont plus de 20 points de retard.
Oui, d'ailleurs, c'est sûrement assez lié, d'ailleurs, à ce projet de loi.
Ah, ça, on peut le dire. Les travaillistes y sont opposés, ils l'abrogeront. Donc, on peut dire c'est une anecdote. On pourrait dire c'est une anecdote, je ne le crois pas. Je pense que c'est à la fois une brèche et un gouffre. La brèche, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Il y a eu des accords entre des pays européens et des pays tiers pour qu'ils contrôlent mieux les sorties de leur territoire.
Okay. Et du Maghreb notamment.
Il y a eu, on s'en souvient, entre l'Union européenne et la Turquie, et ça posait déjà des problèmes, des accords pour qu'ils gardent des réfugiés potentiels avec des contreparties financières, notamment des Syriens. Là, on va un cran plus loin, et c'est ce en quoi je dis c'est une brèche vers quelque chose de nouveau, au sens où l'accord qui vient d'être voté, Natacha l'a dit, le Rwanda traite les demandes d'asile sur le territoire britannique, mais si il l'accorde, l'asile se fait d'une certaine manière au Rwanda et pas au Royaume-Uni. Et donc ça, c'est une différence absolument fondamentale. Et pourquoi, je crois que je disais, c'est un gouffre. La question, qui est une question très profonde, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour traiter la question de l'immigration. Et c'est un gouffre, d'abord un gouffre éthique, au sens où il y a une complète marchandisation de l'immigration.
Pourquoi vous dites ça par rapport à Kigali ? C'est quoi quel est l'intérêt pour le Rwanda ?
C'est... Ah ben, il est très simple, c'est que c'est un gouffre financier aussi. Avant même que cette opération ne commence réellement, c'est 500 millions d'euros qui sont versés par les Britanniques au Rwanda. Et pour chaque réfugié qui est envoyé au Rwanda, c'est 150 000 euros. Donc tout ça, 150 000 euros par personne. Donc tout ça, il y a un enjeu financier pour Kigali derrière. Donc gouffre éthique, gouffre financier, gouffre juridique sur l'état de droit, au sens où l'institution judiciaire est entravée et par exemple, elle ne pourra pas contrôler notamment que le Rwanda est un pays sûr, puisque la loi le dit. Et enfin, gouffre géopolitique, c'est la formule d'Emmanuel Macron lorsque, dans son discours, il parlait d'une géopolitique du cynisme qui crée de nouvelles dépendances, ou un peu de la même manière que l'on a vu avec la Turquie, eh bien, on se met, ce faisant, dans la main d'autres des pays qui accueillent, que par ailleurs, on peut aussi déstabiliser. Donc, est-ce que c'est scandaleux ? Oui.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, retour en France pour le troisième sujet d'actualité avec une douloureuse réalité pour des millions de nos concitoyens.
On n'a pas de docteur, bon sang.
Les 2200 habitants de Froidfou en Vendée n'ont plus de médecin depuis le récent départ de leur généraliste recruté il y a 14 ans en Roumanie. Personne ne se presse pour la remplacer, malgré le coup de pouce promis par Monsieur le maire.
On a mis une prime d'installation de 20 000 euros. On offre le loyer du cabinet pendant un an. On a réservé un logement neuf, un T3, et on lui offre le loyer pendant 6 mois.
Extrait de l'émission 28 minutes d'Arte. Gilles, cette semaine, la Fondation Jean Jaurès s'est sérieusement penchée sur le sujet sensible des déserts médicaux.
Oui, on l'a fait parce que vous vous souvenez, dans toujours cette enquête sur la société idéale, on demandait aux Français où ils voulaient habiter, quels étaient les services qui étaient importants. Et le premier service, de très loin devant tous les autres, et quelles que soient les catégories, c'était avoir accès à des soins. Et quelque chose qui était une évidence il n'y a pas si longtemps, devenait une incertitude et une inquiétude. Et on a voulu savoir si c'était...
Et c'est fou que ce soit une société idéale, une société où on puisse se faire soigner, quand même. Non, mais ce n'est pas un idéal, théoriquement.
Eh bien, oui,
ça le devient.
Et donc, on a voulu savoir si c'était un ressenti ou si ça correspondait à une réalité. Et ce faisant, on a fait, en partenariat avec Doctolib, cette enquête. Elle est exceptionnelle au sens où l'échantillon qu'on a utilisé, c'est 200 millions de rendez-vous de consultation. 200 millions de rendez-vous, 75 000 docteurs. Ça n'a jamais, on n'a jamais eu une enquête d'une telle ampleur. En même temps, il faut avoir la lucidité de dire qu'elle est imparfaite. Au sens où il y a un certain nombre de médecins, il y a un certain nombre de territoires, il y a un certain nombre de Français qui ne sont pas sur Doctolib et que donc il y a, ce faisant, un petit biais. Mais malgré tout, c'est sans doute l'enquête la plus robuste qui ait jamais été faite. Quels sont on a voulu évaluer quelque chose de très simple, c'est quelle est la durée d'un rendez-vous entre la prise de rendez-vous et le moment où vous obtenez ce rendez-vous. Et on fait ça à la fois pour un certain nombre de disciplines médicales, 10 disciplines, et puis l'analyse au niveau national, au niveau régional et même au niveau départemental. Donc on va continuer à travailler sur ce sujet-là. Si j'arrive maintenant sur les conclusions, on peut dire que il y a des éléments qui sont plutôt plus positifs que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que souvent, par rapport aux enquêtes précédentes, le temps moyen est un petit peu inférieur, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire les rendez-vous chez le généraliste, les rendez-vous chez le pédiatre ou chez le dentiste par rapport aux soins de spécialité. Mais en réalité, on voit qu'il y a des départements qui sont particulièrement touchées, il y a des disciplines qui sont particulièrement touchées, et que donc ce problème de l'accès aux soins est que ressentent les Français, eh ben, c'est pas seulement un ressenti, c'est une réalité profonde.
Vous avez un exemple à me donner? Un département particulier, un type de praticien?
Dermatologue.
Ou vraiment, vous avez même des chiffres de temps d'attente, qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent là?
Oui, bien sûr.
Même si on n'a pas de dentiste sous la main.
Alors, par exemple, il y a 15 départements dans lesquels les écarts sont particulièrement importants par rapport à l'ensemble de la moyenne. Le Gers, la Saône-et-Loire, la Nièvre, le territoire de Belfort, le Loiret, le Cher, les Deux-Sèvres, l'Ardèche, l'Eure, le Calvados, la Manche, la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor, le Pas-de-Calais. Et je vous donne un exemple sur l'ophtalmologie, un exemple précis. Les écarts entre les départements sont les plus importants. Il y a plus de 80 jours de différence entre les départements où les délais sont les plus rapides et ceux où ils sont les plus courts. Donc on voit que derrière une relative bonne nouvelle, il y a beaucoup de disparités, que c'est ce à quoi il va falloir s'attaquer, à la fois par des études qui vont un peu plus loin encore que celles que l'on a faites, par un travail dans ces départements, parce que on voit aussi qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses qui se sont améliorées parce qu'il y a eu des innovations qui ont été faites.
Natacha, un mot là-dessus?
On avait fait dans Marianne, il y a un an et demi, deux ans, le même genre d'études, alors sans les moyens considérables de la Fondation Jean Jaurès qui permettent quelque chose de vraiment solide, mais qui
alors
était quand même...
Alors, c'est pas les moyens de la Fondation Jean Jaurès qui, malheureusement, sont modestes, mais en l'occurrence, c'est vraiment grâce au partenariat
avec
les données à disposition des chercheurs.
Nous avions le même genre de méthodologie, mais en partenariat, parce que c'est pas avec nos petits bras qu'on avait fait ça, et du coup, ce qui ressortait, c'était ces écarts et qui nécessitent de se poser la question. L'UFC Que Choisir a attaqué l'État en novembre 2023 pour inaction sur les déserts médicaux. Ça veut dire que on le sait, on le connaît ce problème-là. Il faut le documenter pour savoir exactement où agir, mais on le connaît. Il vient notamment, tout simplement, de la loi de 2004 qui a créé le médecin traitant et qui, en fait, avait pour but d'agir comme un verrou sur les dépenses de santé. On a 6,7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Ce qui prouve que cette question-là, c'est un échec. Il faut en rediscuter avec les syndicats de médecins. De même, la question qui est ô combien épineuse de la liberté d'installation des médecins. On comprend très bien que les médecins ne veuillent pas être forcés, après 10 ans d'études, d'aller s'installer dans des endroits où finalement l'État a décidé de ne pas aménager le territoire et puis s'aperçoit après qu'ils ne sont pas attractifs. Mais les médecins ne sont pas complètement une profession libérale et c'est à cela qu'il faut réfléchir. Dans la mesure où ils sont liés à la sécurité sociale, à la socialisation des dépenses de santé, eh bien, il est normal qu'on réfléchisse à une manière, alors pour l'instant on parle d'incitation, il y en a de plus en plus, etc. Mais il est nécessaire de comprendre qu'ils ne sont pas totalement des libéraux.
Allez, place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Jean-Manuel Roubineau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire ancienne à l'université Rennes 2. Vous travaillez sur la société antique grecque et plus particulièrement sur le sport que vous pratiquez beaucoup. Vous signez Le Sport, récit des premiers temps, un livre d'histoire très clair et surtout très éclairant, notamment à 3 mois de nos Jeux Olympiques, très contemporains, mais qui ne cessent de lorgner sur les références antiques. On va apprendre plein de choses avec vous, j'en suis sûr, Jean-Manuel Roubineau. Et je vous propose de commencer précisément avec une référence antique mobilisée par le président de la République. C'était chez nos confrères de BFM TV le 15 avril dernier.
Et donc c'est aussi en cela que l'olympisme apporte, d'un point de vue diplomatique, beaucoup de choses. Et au-delà de l'expérience très humaine, on va aussi tout faire pour avoir une trêve olympique. On va œuvrer à la trêve olympique. Et je pense que c'est une des forces et on a besoin de ça. Donc oui, c'est un moment aussi diplomatique de paix.
J'ai deviné un petit sourire. On parle beaucoup de trêve olympique aujourd'hui. Qu'en dit l'historien de l'Antiquité quand il entend ça?
Ça fait partie des idéaux constitutifs du mouvement olympique moderne qui ont souvent été projetés sur le sport antique. Donc il y a de fait une trêve dans l'Antiquité pour un certain nombre de concours, dont les concours olympiques. Mais ça n'est pas une trêve qui est synonyme d'interruption de l'ensemble des hostilités, des conflits militaires. Les seuls conflits qui s'interrompent à ce moment-là sont ceux qui concernent directement la cité organisatrice de la compétition. Autrement dit, dans l'Antiquité, il n'y a pas d'idéal pacifiste et les concours, et les concours olympiques en particulier, n'ont jamais en fait fait la promotion d'un idéal pacifiste. Ça, c'est véritablement une invention du mouvement olympique moderne à la fin du 19e siècle.
Quand vous dites qu'il y a aussi le sauf-conduit, vous dites oui. Il y a ça, mais aussi cette autre idée que les athlètes venant d'ailleurs ont une espèce de sauf-conduit qui leur permet d'aller jusqu'au lieu
de ne pas être impacté par les guerres.
Absolument, à partir du moment où la trêve est proclamée dans une cité, la cité en question doit laisser passer librement sans les saisir les athlètes, les spectateurs et les ambassadeurs de cités tierces qui se rendent à la compétition.
Oui. On parle beaucoup de la sécurisation de Paris pour les Jeux Olympiques. Cette question-là d'un espace qui serait pacifié parce que mise en sécurité, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'Antiquité.
Il y a cette idée malgré tout que le sport c'est la guerre sans les armes, pour reprendre la vieille expression de George Orwell. Autrement dit, durant le temps de la compétition, effectivement, il n'y a pas d'hostilité sur le site de la compétition. Et la dernière épreuve inscrite au programme du concours olympique, c'est ce qu'on appelle la course en armes, qui précisément est la seule épreuve qui est en fait directement, matériellement liée à l'exercice de la guerre. Et elle est placée en dernier précisément pour marquer le retour à un régime diplomatique normal.
La référence permanente au sport antique depuis le XVIIIe siècle, c'est assez normal en fait quand on vous lit, puisque vous nous rappelez, vous nous apprenez que le sport disparaît pendant plus de 1000 ans à la fin de l'Antiquité. Faut nous expliquer pourquoi, parce que j'avoue que c'est pas quelque chose d'immédiatement évident quand on y pense.
Oui, ben le sport ou les concours athlétiques sont une des formes, je dirais, de spectacle qu'ont beaucoup aimé les Grecs et puis secondairement les Romains durant un millénaire. Et puis à la fin de l'Antiquité, entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, il y a un goût qui change, qui évolue et qui s'oriente vers d'autres types de spectacles. Et puis, je dirais, au-delà du début du 6e siècle, on n'a plus aucune trace de concours athlétiques, de concours gymniques. On a longtemps expliqué ça par des raisons politiques et religieuses. L'idée était que l'hypothèse des historiens était en fait que la christianisation de l'Empire romain avait abouti à une interdiction des concours qui étaient pour la plupart d'entre eux organisés en l'honneur d'une divinité, donc dans une perspective païenne pour un monothéiste. Oui. Et on s'est rendu compte ensuite en examinant de plus près la documentation que c'est pas le cas. C'est-à-dire que le rescrit impérial de Théodose Ier, qui est pris à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ, n'a en fait pas du tout interrompu les compétitions athlétiques. Elles sont mortes progressivement, d'une région à l'autre, de leur belle mort, parfois au 4e siècle, parfois au 5e siècle, parfois au 6e siècle. Autrement dit, ça n'est pas une motivation religieuse qui a fait disparaître le sport de la planète.
Ça serait quoi, une motivation qui serait de l'ordre de l'abandon du corps au profit de l'esprit, c'est quoi ?
On pourrait dire ça, on pourrait dire qu'on passe d'un modèle de l'athlète à un modèle du moine, si l'on veut, ouais. mais de manière plus large, c'est vraiment une affaire de goût. C'est-à-dire qu'il y a des formes de spectacle qui ont persisté. Les concours hippiques, par exemple, continuent durant le Moyen-Âge, durant l'époque byzantine, pour le cas grec. Autrement dit, il y a simplement une forme de désaffection. Et puis, il y a toute une série de raisons secondaires. Les concours étaient financés par des notables, en partie par des notables, qui y avaient un intérêt politique. C'était une manière pour eux de construire leur notoriété. Et à l'échelle de l'Empire, en fait, il y a, je dirais, de nouveaux moyens pour accéder à du pouvoir politique qui n'implique pas de financer des compétitions athlétiques. Et donc, d'une certaine manière, l'argent qui était disponible pour organiser des concours va être de moins en moins disponible.
Et mobiliser autrement.
Oui.
Natacha.
Alors, c'est un livre absolument passionnant, évidemment, parce que c'est spécifiquement sur l'antiquité, la mentalité antique, et on passe son temps évidemment à faire des allers-retours, à réfléchir à la différence avec notre époque. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous venez de dire qu'on a pris goût pour d'autres spectacles à un moment. En même temps, il y a en permanence dans votre livre, et c'est ce que vous soulignez, un lien entre le sport, le gymnase et la démocratie, même si, bien sûr, quand on voit les compétitions sportives dans l'Iliade et l'Odyssée, on n'est pas dans un contexte démocratique. Quand on est dans des cités tyranniques, on n'est pas dans un contexte démocratique. Mais vous écrivez à un moment, le gymnase est un marqueur topographique du paysage civique grec. Et on comprend qu'il y a ce lien avec la notion d'homme libre. Quel est ce lien et en quoi est-il différent d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que, on va dire, la différence entre la liberté des anciens et celle des modernes, telle que justement on a pu la penser.
Jean-Manuel Roubineau.
Oui, le sport est pensé, conçu comme un moyen de, à la fois de préparer à la guerre et de construire plus largement, j'irais, la citoyenneté, l'idéal du citoyen soldat. Autrement dit, vont d'abord et avant tout au gymnase ceux qui sont appelés à l'âge adulte à entrer dans le corps civique. Autrement dit, l'ensemble des disciplines athlétiques sont pensées, encore une fois, comme préparatoire à l'idéal de l'homme libre adulte, en tout cas s'il est citoyen de la cité dans laquelle il réside. Et les gymnases apparaissent chronologiquement dans le courant du 6e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que les régimes dits politiques, qu'ils soient démocratiques ou oligarchiques. Mmh. Autrement dit, quand on a des régimes où le principe est de répartir le pouvoir d'une manière collégiale, partagée, avec des débats, avec un pouvoir qui est tournant, en même temps, on voit apparaître ce principe du sport comme pratique quotidienne, régulière, et de l'entraînement. Et donc, d'une certaine manière, on peut penser le sport comme une forme de face, deuxième face, face corporelle de l'idéal politique. De même que dans les assemblées, les citoyens débattent sans armes à la main. On n'est pas armé à Athènes quand on va à l'assemblée. On débat et puis, si on perd le vote, on se soumet au principe majoritaire. De la même manière, l'affrontement athlétique est un affrontement sans les armes. Alors, c'est pas l'affrontement des idées, c'est l'affrontement des corps.
Et c'est un affrontement sans chronomètre. Ce qu'on lit en parce que franchement, pour le coup, quand Natacha dit on lit en pensant toujours à aujourd'hui, il y a des choses surprenantes. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est qu'une raison technique, mais on ne s'intéresse pas du tout à des records comme aujourd'hui où on passe notre vie à regarder tel perchiste qui a fait 6 mètres 24. On dit, ah, c'est incroyable, c'est un centimètre de plus là, ce serait plutôt tel perchiste a battu tel autre perchiste.
C'est ça. La logique est effectivement une logique de ici et maintenant. L'objectif est d'être le vainqueur d'une compétition donnée. On n'essaie pas de se situer, en tout cas pas en termes de performance au sens où on l'entendrait aujourd'hui, à une échelle complètement systématisée, globale, en étant en concurrence avec tous les athlètes. Alors pour autant, on se sent, quand on est un champion, en concurrence avec les autres athlètes et on essaye de faire ce que les autres n'ont pas fait.
Oui.
De remporter un titre de plus, de remporter un titre dans une discipline dont on n'est pas spécialiste pour montrer qu'on est bon, non seulement excellent dans la discipline où on excelle au quotidien, mais aussi très très bon dans une autre. Donc il y a quand même une logique de confrontation. Mais oui, pas de mesure. Mais pour une série, il y a des blocages techniques. On n'a pas d'horlogerie de précision dans l'Antiquité, oui. Pas de photo finish. Et puis il y a une autre raison, je dirais, plus politique, en fait, qui est que chaque cité est maîtresse de ses unités de mesure. Chaque cité a son système de mesure, ce qui veut dire que quand vous êtes vainqueur au stade, au concours olympique, vous n'avez pas parcouru la même distance que si vous êtes vainqueur au stade lors des concours pythiques ou des concours néméens. Un stade, ça fait, dans la plupart des cités, 600 pieds, sauf que chaque cité à son pied. Et il varie d'une cité à l'autre.
Ça, c'est fascinant, parce que ça raconte bien à quel point le sport est le miroir d'une société à un moment donné. Et aujourd'hui, avec ces records mondialisés, ça raconte aussi notre mondialisation avec exactement les mêmes instruments qui permettent de comparer une performance à Mexico ou à Munich ou je ne sais où. Gilles.
Alors justement, sur ce miroir d'une société donnée, ça fait quelques années que nous nous retrouvons dans ce studio du grand face-à-face avec Natacha et avec les auditeurs. Et je crois qu'un des plaisirs qu'on y prend est de lire des livres que peut-être on n'aurait pas lus. Et sans doute, je n'aurais pas lu ce livre. Et je suis bien content de faire cette émission parce que ça m'a permis de lire ce livre et que c'est vraiment... on apprend des choses absolument, absolument passionnantes. Il est facile d'accès, c'est clair, c'est vraiment super.
C'est vrai.
Oui, oui, bien
Merci.
Sûr.
Presque pour revenir en arrière, un des éléments intéressants, c'est une question qu'on se pose peu en fait, c'est qu'est-ce que le sport ? Quels en sont les critères ? Et quelles sont les différentes catégories ? Parce que on parle chez nous beaucoup aujourd'hui les sports individuels et les sports collectifs. Vous expliquez que à l'ère antique, c'est pas du tout ça. Et il y a des sports qui auraient pu se pratiquer, je pense au passage que vous faites sur la natation, qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce que le sport ? C'est quoi ces critères et c'est quoi les différentes catégories de sport à l'ère antique ?
Oui,
Jean-Manuel Roubineau.
Oui, sur la question des critères, en fait, il faut savoir que le terme de sport est un très vieux terme d'ancien français qui prenait d'abord une forme plus longue, d'esport, d'e-sport, d'e-port, qui a été emprunté par les Anglais et qui a ensuite fait l'objet d'un raccourcissement, on appelle ça en linguistique une aphérèse, donc on a coupé une partie du mot pour qu'il devienne sport en anglais, et c'est revenu sous cette forme anglaise raccourcie en français au début du 19e siècle. à ce moment-là, le terme est vraiment une notion assez large qui désigne l'ensemble des divertissements du gentleman, qui inclut les jeux de cartes ou le pari hippique, par exemple, donc des activités qu'on ne considérerait plus aujourd'hui comme sportives. Et puis au fil du 19e siècle et du 20e siècle, le terme s'est conceptualisé, s'est beaucoup réduit. Et aujourd'hui, on va considérer qu'une activité est sportive si elle satisfait à quatre critères. Il faut qu'elle soit motrice, codifié, donc il faut qu'il y ait des règles et des choses interdites, des gestes interdits notamment, institutionnalisés, donc des fédérations, des associations, des structures, et compétitives. Et ces quatre éléments-là, ben, on les retrouve à l'identique dans les pratiques athlétiques antiques, et c'est la raison pour laquelle on peut les qualifier de sportives, même s'il n'y a pas d'équivalent exact dans la langue antique au terme contemporain aujourd'hui en français ou dans d'autres langues de sport. Sur la question des catégories, ben oui, effectivement, il n'y a pas de sport collectif dans l'Antiquité, enfin, il y a une exception, les courses au flambeau en relais, qui sont la principale forme de sport collectif qu'on puisse évoquer. Pour le reste, les Grecs et les Romains distinguaient les sports en deux grandes catégories, les sports dits lourds et les sports dits légers. Pourquoi les sports lourds? Eh bien, ça désigne essentiellement les sports de combat. Sports lourds parce qu'en fait, il n'y avait pas de catégorie de poids dans l'Antiquité. Autrement dit, vous n'aviez pas de multiples champions olympiques de lutte ou de boxe ou d'autres disciplines de sports de combat. Vous n'avez qu'un champion olympique de lutte, qu'un champion olympique de boxe par Olympiade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les athlètes étaient, je dirais, orientés de manière préférentielle vers ces disciplines quand ils avaient des physiques très massifs. Parce que si vous pesiez l'équivalent de 60 ou 70 kilos, vos chances de remporter le titre olympique de boxe étaient très faibles face à quelqu'un qui pouvait faire le double de votre poids.
C'est l'autre que vous dites, qu'il y avait les forts et les rapides. Voilà.
Il y a les forts et il y a les rapides. Les sports légers sont effectivement l'autre grande catégorie. Ça désigne les courses et les disciplines assimilées à des courses. Donc il y a différents types de courses, des formes de sprint, de course rapide, la course de stade qui est la course Rennes, qui est une ligne droite sur une longueur d'un stade, donc environ 200 mètres, un petit peu moins que ça selon les cités. On a une course de double stade, donc l'équivalent de notre 400 mètres, à ceci près qu'il se déroule de manière assez différente, puisque chaque coureur a deux couloirs à sa disposition. Un couloir pour un sprint aller, et puis il doit ralentir, déraper, faire un demi-tour autour d'un piquet, et faire 200 mètres, ou un petit peu moins, dans l'autre sens.
J'ai une question un peu idiote, mais comment vous le savez ?
Alors, on le sait parce qu'on a à la fois des textes qui le décrivent et puis parce qu'on a des images, notamment des scènes athlétiques sur vase qui nous fournissent un certain nombre de détails, oui.
Natacha. J'ai une furieuse envie de vous demander, mais alors l'e-sport, est-ce que c'est un sport? Puisqu'on a eu des heures et des heures de débats là-dessus. Vous y répondrez si vous voulez, mais je voulais surtout vous poser une question, mais qui est liée d'ailleurs à ça, la question de la dimension ludique ou pas de ce spectacle, puisque vous faites un lien dans un petit paragraphe du livre entre le sport et la tragédie, puisqu'en fait ça avait lieu au même moment, et vous dites en gros le sport montre la fatalité et la tragédie, la vérité nue. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question-là et comment ça s'articule et pourquoi c'est important qu'il y ait aussi la dimension de la tragédie à côté?
Oui, alors de fait, on a des spectacles théâtraux qui sont des concours d'ailleurs, qui prennent la forme de concours. Les pièces de théâtre sont organisées sous la forme de compétition entre des poètes. Et la grande différence entre le spectacle théâtral et le spectacle sportif, c'est que d'une certaine manière, on sait déjà ce qu'on va trouver au théâtre quand on y vient. On va être surpris par les inventions du poète, mais on connaît l'histoire. En tout cas, pour les tragédies, il s'agit de mythes que la plupart des Grecs connaissent déjà assez bien depuis l'enfance, et donc ils viennent finalement assister à la manière dont tel ou tel poète va revisiter un épisode du mythe. Autrement dit, on n'est pas surpris par la chute au théâtre. Mmh. Alors que dans le spectacle sportif, l'idée est quand même malgré tout de laisser la possibilité d'être surpris par un challenger qui va renverser le champion en titre ou par des gestes techniques inattendus ou une situation, je dirais, athlétique, compétitive, surprenante. Donc je dirais qu'il y a une forme d'opposition entre le théâtre tragique et puis le spectacle sportif, dans le sens où l'un des deux s'inscrit plutôt dans le fait qu'il n'y a pas de surprise et qu'on est là sur un chemin attendu, et ce qu'on vient voir, c'est finalement assister à la créativité du poète, alors que dans la compétition sportive, c'est l'athlète et ses compétences qu'on va venir célébrer.
Mais est-ce qu'il y a une concurrence entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, on dit parfois, les gens préfèrent aller au stade plutôt qu'au cinéma ou au théâtre. Est-ce qu'à l'époque, on a déjà ce genre de débat qui traverserait la société?
Non, on peut pas dire ça. Les deux formes de spectacle sont vraiment également appréciées. Alors, elles sont pas également diffusées. Le sport est nettement plus présent, je dirais, de manière homogène à l'échelle de l'ensemble du pourtour de la Méditerranée que ne l'est le spectacle théâtral. Ça c'est certain. Mais il n'y a pas véritablement de concurrence quand le sport est attaqué ou critiqué. C'est pour d'autres raisons. On va éventuellement objecter l'inutilité sociale des athlètes ou le fait que leur corps est contrefait, que finalement le fait de passer sa vie à s'entraîner, ça ne fait pas de vous quelqu'un en bonne santé, et ça ne fait certainement pas de vous quelqu'un d'équilibré, puisque vous consacrez trop de temps à votre corps et pas assez à votre esprit.
On reviendra sur les critiques, parce que c'est vraiment passionnant, mais Gilles.
Avec les Jeux Olympiques à Paris, on va sans doute une nouvelle fois souligner la dimension universelle du sport, et ce qui est intéressant, c'est que vous venez nuancer cette dimension-là, à la fois que ça n'a pas eu lieu tout le temps, c'est ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure, vous dites que c'est même un des rares phénomènes historiques qui est né deux fois, le sport, donc pas tout le temps, mais pas aussi pour tous, parce que le sport, à l'ère antique, ce que vous décrivez, c'est le sport des hommes libres. Hommes libres, ça veut dire pas les esclaves et pas les femmes.
Un tout petit peu les femmes quand même.
Oui, pas beaucoup.
Tout petit peu. Non, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et c'était, ça m'a d'ailleurs intéressé parce que je connaissais pas très bien cette dimension-là.
Jean-Manuel Roubineau.
Oui, effectivement, le sport est un véhicule des hiérarchies sociales. Et donc, puisqu'il est pensé comme un avatar de la guerre et que seuls les hommes font la guerre, bien les femmes ne sont pas les bienvenues en règle générale au gymnase. Donc, on n'a pas de sport des femmes au sens de femmes adultes. En revanche, on a quelques traces de sport féminin de petites filles et de jeunes filles. Le cas le plus connu, c'est en fait le cas des jeunes filles spartiates qui s'adonnaient notamment à la lutte, à la course, au lancer du disque et au lancer du javelot. Mais en fait, c'est une forme d'exception qui confirme la règle, puisque la raison pour laquelle on faisait faire aux petites filles et aux jeunes filles spartiates des exercices athlétiques était celle pour laquelle on n'en faisait pas faire aux petites filles et aux jeunes filles ailleurs. C'est-à-dire qu'il s'agissait de construire des corps de futures mères. Donc on faisait s'entraîner les petites et les filles spartiates et les jeunes filles spartiates pour que le moment venu, elles aient des corps solides qui soient capables d'enfanter des bébés costauds dès la naissance et qui feraient ensuite des soldats vigoureux, courageux.
Quand on parle de sport aujourd'hui, facteur d'intégration ou d'inclusion, là pour le coup c'est très très contemporain. Il n'y a pas de référence à l'Antiquité là.
Dans le sport comme facteur d'intégration, mais c'est-à-dire c'est un facteur d'intégration à l'échelle du corps civique. Oui.
Ah, oui.
Le sport est pensé comme un moyen de rentrer dans le corps civique, donc vous intégrez via le sport un certain nombre de valeurs civiques qui sont attendues de vous, mais c'est aussi un phénomène effectivement qui exclut aussi les esclaves. Alors on a quelques traces à l'époque impériale de compétitions dans lesquelles visiblement les esclaves étaient autorisés, mais durant presque toute l'Antiquité, les compétitions sont réservées aux hommes libres. Oui.
Natacha.
Il y a une dimension de rapport au corps qui est extrêmement importante. Ça m'a évoqué à un moment donné le texte du discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où il dit que l'une des caractéristiques de la démocratie aussi, c'est d'aimer la beauté, les plaisirs de la vie. Or, vous décrivez toute la dimension justement de plaisir qu'il peut y avoir et aussi d'érotisation des corps, alors c'est très réglementé. Est-ce à dire que cette vision-là est aussi liée à cet idéal de l'homme libre tel qu'il se définit en Grèce? Comment vous le définissez?
Oui, on peut dire ça. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas répondu sur la question sur le e-sport, mais pour revenir sur la question...
C'était une parenthèse, parce que visiblement,
on ne l'oublie pas.
Non, mais je viens y revenir tout à l'heure. Donc, sur la question, oui, du corps athlétique, effectivement, il y a un idéal corporel masculin dans l'Antiquité qui est très fort, avec un corps masculin qui est montré, exhibé, sculpté, par opposition à des corps féminins qui sont essentiellement cachés, voilés, protégés. Les femmes sont supposées avoir un teint de peau assez clair, si elles sont de bonne famille, parce qu'elles sont censées rester dans l'intérieur domestique, et puis si elles sortent, elles sont censées avoir des ombrelles ou avoir des esclaves qui protègent leur carnation, et même le maquillage, en fait, l'art du maquillage féminin est un art qui essaye de blanchir et de faire apparaître les femmes de la haute société comme les plus blanches possibles, parce que c'est aussi synonyme de fécondité, et donc de féminité. Par opposition, on montre les corps masculins. On montre les corps masculins, et il y a effectivement un art corporel corporelles ou, je dirais, une série de, d'activités qui construisent le corps. Ça inclut l'onction, ça inclut l'empoussièrement du corps avant l'entraînement, qui poursuivent toute une série de fonctions, mais aussi une fonction esthétique. On sait que les Grecs, après s'être oint le corps d'huile, l'empoussiéraient avec différents types de poussière, de manière à le faire scintiller. Il s'agissait de rendre le corps le plus beau possible, luisant et scintillant, parce qu'il y avait un goût du scintillement corporel.
Un peu comme le corps de Gilles, de toute manière. Juste une question quand même, parce que dans quelques mois, on va célébrer les héros du sport moderne, on va leur mettre des médailles, on va les héroïser. Cette figure de l'athlète héroïque, ça vient directement de l'Antiquité?
Oui, complètement. C'est une figure qui surgit dans le courant du 6e siècle avant Jésus-Christ. On voit des individus qui se définissent comme des athlètes, qui sont d'ailleurs figurés sur des stèles funéraires en position athlétique, parfois avec des éléments matériels qui indiquent leur discipline de prédilection, et qui sont surtout traités par leur cité de manière tout à fait atypique. Si vous êtes un champion olympique à Athènes, par exemple, après avoir remporté votre titre, quand vous rentrez dans la cité, vous recevez toute une série d'honneurs, une prime de 500 drachmes, ce qui représente entre 2 et 3 années de salaire pour une personne normale. Vous recevez le droit d'être statufié dans la cité. Et d'ailleurs, vous avez reçu aussi ce même droit sur le site olympique, d'ériger une statue à votre effigie. Vous pouvez recevoir le droit d'être nourri aux frais de la cité tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Et donc, il y a toute une série de bénéfices, d'honneurs, de privilèges qui sont attribués en fait aux athlètes et qui disent bien la place qui leur était accordée dans la société. Ils avaient une position d'exceptionnalité.
Est-ce que ça veut dire aussi que, comme aujourd'hui, ils participent ainsi de la puissance de leur cité ?
Absolument. Et c'est un peu le paradoxe du sport antique, c'est-à-dire qu'on est que le représentant de soi-même quand on s'inscrit à une compétition. Vous vous présentez, on aurait eu, vous ou moi, le droit de venir au concours olympique et de prétendre à y participer. On n'aurait probablement pas été admis après les 30 jours d'observation par les magistrats. Mais on a le droit de se présenter de sa propre initiative. Il n'y a pas de principe de délégation nationale ou de direction technique nationale. Par contre, quand vous remportez un titre, alors la cité court après la victoire. Et elle se prévaut de votre victoire parce que vous êtes quelqu'un qui est issu de ses rangs.
Gilles,
on a évoqué à l'instant le statut des athlètes, la dimension à la fois symbolique et financière pour ceux qui gagnent, l'importance pour les cités d'avoir, en termes là aussi de statut, de reconnaissance, d'avoir leur gymnase, d'avoir leur compétition. Mais il y a cette espèce d'ambiguïté, vous dites, aucun sélectionneur national, aucune délégation d'athlètes, aucun porte-drapeau, quelle est la partie de fierté, on va dire aujourd'hui de fierté nationale, mais disons de fierté identitaire qui est liée, au-delà d'exploits individuels, à cette dimension sportive?
Jean-Manuel Robineau.
Oui, bien, les cités se prévalent de leur champion. On a par exemple un pancratiaste au 4e siècle avant Jésus-Christ, originaire de la cité de Sicyone, qui s'appelait Sostratos, qui a été champion olympique à 3 reprises dans les années 360-350. Et 40 ans plus tard, la cité de Sicyone a fait frapper une monnaie sur laquelle elle a fait figurer le pancratiaste Sostratos sur un petit coin du bord de la monnaie, parce que c'était une manière pour elle de dire voilà, voyez qui est issu de nos rangs, c'est l'homme le plus illustre que la cité de Sicyone ait jamais porté. Autrement dit, il y a cette logique-là. Il y a aussi des logiques d'affiliation, c'est-à-dire que ce que nous montre l'archéologie, par exemple, du stade de Némée, au nord-est du Péloponnèse, on a trouvé de nombreuses monnaies dont on peut identifier l'origine civique, quelle cité a frappé la monnaie, et on se rend compte que sur les gradins, les individus issus d'une même cité était assis côte à côte. Autrement dit, il y avait vraiment une logique de supporting qui pouvait être très très proche de la nôtre.
Et donc, finalement, pour se faire plein d'amis à la fin de cette émission, l'e-sport, c'est du sport ou pas?
En tout cas, ça en remplit les quatre conditions formelles. C'est une activité qui est compétitive, qui est codifiée, qui est institutionnalisée. Le seul doute, la seule question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une activité motrice qui implique donc des compétences motrices spécifiques?
Ah, je crois.
Et la réponse est oui. Il y a toute une série de disciplines d'e-sport qui impliquent par exemple le rolling, qui est une technique particulière qui permet d'utiliser tous les doigts sur un joystick, en fait, est une technique qui a permis de faire évoluer les performances en e-sport. Et donc, c'est une compétence motrice que nous ne maîtrisons pas tous.
J'ai envie de terminer par une citation de votre livre qui raconte à quel point ce qu'on lit et ce qu'on vit permet parfois de mieux comprendre comprendre. Il y a une étrangeté à voir les pétromonarchies du XXIe siècle importer certaines pratiques sportives, à l'exemple du football, à grand renfort de contrats mirobolants. En l'absence de culture sportive locale, de tradition d'éducation physique et surtout de culture politique, ces opérations visent, par-delà leurs enjeux économiques, à acheter un brevet de respectabilité au risque de créer des formes sportives détachées de leur environnement. De manière piquante, écrivez-vous, les pétromonarques ne font ici que marcher dans les pas des tyrans grecs qui, tout en piétinant les principes démocratiques, se sont employés, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, à attirer des champions à grand renfort d'argent dans les cités sous leur coupe. C'est formidable.
Absolument, on a un commerce des passeports qui existe en fait dès l'Antiquité, qui était pratiqué essentiellement par les tyrans de Sicile, parce qu'ils avaient les moyens de le faire, alors que dans la plupart des cités démocratiques, la cité n'avait pas assez d'argent dans le trésor public pour se livrer à ce type d'opération.
Merci, merci beaucoup. On avait encore 1000 questions à vous poser, mais on vous lira. Jean-Manuel Roubineau, Le Sport, récit des premiers temps aux éditions des presses universitaires de France. Merci beaucoup
merci
d'être passé. Merci Gilles, merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Anaïs Reinhardt à sa réalisation. Et aujourd'hui, c'est Renan Mahé qui était à la technique d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr.